On va faire une entrevue avec un psychologue là, qui va nous expliquer un petit peu où on en est avec les recherches sur ce qu'on appelle l'effet du passant ou la passivité des témoins. Tu vois ce qui se passe, puis tu n'interviens pas. Puis il y a eu des études qui ont été faites. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Pourquoi on reste figé? Pourquoi on ne va pas donner de l'aide? Et après, je vais prendre vos appels. Je vais vous demander, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être témoin d'une scène sans être capable d'intervenir ou est-ce que vous avez été plutôt du genre à être le premier à aider quelqu'un qui était dans le besoin? Donc moi, j'aimerais bien entendre vos histoires. 790-9850, 98-985 par texto ou encore Drainville à commercial 985fm.ca par courriel. On va aller rejoindre Pierre Faubert, psychologue. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Bernard.
Pourquoi les gens font rien? Pourquoi les gens bougent pas? Pourquoi non seulement là les gens ne sont pas intervenus pour arrêter l'agresseur, puis il y a quelqu'un qui filme, puis on entend effectivement des personnes qui sont autour, puis dont certaines qui pleurent. Oui. Et par la suite, pendant 15 minutes, ils demandent de l'aide, puis il y a personne qui va l'aider là.
Oui, en fait, ce sont deux scènes totalement différentes. La première, c'est comme s'il y avait un engouement pour le sang. Tu sais, on est là, puis on veut du sang, et c'est tout à fait, je dirais, phénoménologique de voir des attroupements. Moi, j'étais 25 ans dans un collège, et puis dès qu'il y avait une bagarre, là, il y avait 150 élèves là, qui étaient là dans une fraction de seconde. Là, c'était assez remarquable de voir la vitesse à laquelle on arrivait à une foule. Parce que les gens sont à la recherche de l'excitation, du sang. Le pain et les jeux, là, c'est du cirque romain, là, c'est pas nouveau, hein. Donc, l'humain a un goût pour la bagarre en tant que spectateur. Parfois, il y a des gens qui ont une espèce de surplus d'adrénaline et puis d'agressivité, et puis ils vont participer à ce genre d'activité-là. Et puis, on a aussi nos activités organisées, hein. On a nos arts martiaux avec notre champion ici au Québec. Et puis, on a le hockey, mais il y a moins de violence, mais on a le soccer. En fait, partout où il y a une espèce d'action imprévisible et avec beaucoup d'agressivité, ça attire le monde. Et puis là, on est dans un milieu qui est désorganisé. Autrement dit, il y a rien pour contrôler, il n'y a pas de règles. C'est l'agresseur qui, selon ses propres instincts, réflexes, va choisir une victime et puis va satisfaire son besoin d'agressivité sur une victime innocente. Là, la foule, qu'est-ce que la foule fait? Bien, la foule encourage ça parce qu'on est habitué au sport et puis à être spectateur. Selon le journal américain de l'Association médicale américaine, eh bien, on dit que pour un jeune en moyenne de 18 ans, il voit par année 6000 actes de violence. Et puis, à 15 ans, 50 à 70 % sont des témoins de faits et gestes dans leur vie. Autrement dit, pas à la télé, pas dans les films, mais dans leur propre vie, jusqu'à 70 %. Donc, il y a une espèce de désensibilisation qui se produit. Il y a une accoutumance. Et puis, il y a même des besoins qui sont créés parce qu'on a besoin d'une stimulation de comportement agressif.
Okay.
Et puis l'autre facteur qui joue là-dedans, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire que, pour résumer ça rapidement, on dit c'est pas vrai, ça se peut pas. On est devant un événement, peu importe l'événement qui arrive soudainement, on dit non, c'est pas possible. Donc c'est comme un réflexe qui fait en sorte qu'il y a un déni. Et puis c'est un système réflexe justement d'auto-protection pour éviter la douleur qui pourrait s'en suivre.
La douleur ou la culpabilité de rien faire, là.
La culpabilité, ça vient après. On n'est pas dans les réflexes moraux à ce moment-là.
D'accord.
En fait, en anglais, on dit fight or flight, donc on se bat ou on fuit, mais il y a le troisième phénomène qui est freeze. Et c'est là que les gens vont se geler. C'est-à-dire, ils se gèleront pas volontairement, mais ils se gèleront pour justement ne pas subir la douleur.
Mais ils ont peur. Je pense que tu as peur d'intervenir parce que tu as peur que l'agresseur se retourne contre toi puis te sacle la volée à ton tour.
Peut-être, mais encore là, ça peut paraître rapide là, comme comment c'est dit, mais tout ça, ça se passe dans une fraction de seconde.
Ben oui, je sais, je sais.
C'est-à-dire que la personne, là, elle est là, puis elle n'a pas le temps de réfléchir, est-ce que j'aide, est-ce que... Mais les mécanismes sont, est-ce que je reste ou est-ce... Si la personne pense qu'elle peut aider, elle va rester. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui sont spécialement entraînés pour ça. La police, les pompiers, on a des SWAT, là, ce qu'on appelle les SWAT. Mm-hmm. Ces gens-là sont habitués, sont entraînés, sont conditionnés à mettre de côté, justement, l'instinct de fuite. Alors, okay. Eux ont évalué la situation et donc ils se disent, je suis capable de surmonter l'agresseur et j'ai les moyens pour le faire et donc je vais le faire.
Là, Pierre, j'ai beaucoup de bons appels. Je veux juste aller vite à la deuxième partie. Pourquoi les gens ne l'aident pas? Pendant 15 minutes, il y a le visage en sang, il n'y a personne qui lui offre d'appeler le 911. Pourquoi?
OK. Ça, c'est... En fait, j'ai vu les images du visage de ce jeune homme. Et puis, c'est pas beau. Alors donc, les gens sont devant une espèce de un masque d'horreur. Et puis, encore là, on rencontre pas des masques d'horreur à tous les jours. Et donc, il y a aussi le qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pas possible. Je m'en vais. Je fuis. Là, on n'est pas devant une agression, mais on est devant quelque chose qui nous surprend. Et donc, à ce moment-là, les gens préfèrent partir plutôt que d'aider. Il n'y a pas d'évaluation de la situation. Un médecin, un ambulancier, un technicien, eux, ils vont évaluer la situation parce qu'ils sont habitués à le faire. Ils vont intervenir. Mais les gens comme vous et moi, on voit ça. Moi, j'en ai ça à nous voir. Vous et moi, là, marcher sur la rue Sainte-Catherine, puis tout d'un coup, voir une bagarre, et puis de voir un type qui vient vers nous ensanglanté. Moi, je me souviens, une fois, j'étais sur la rue Sainte-Catherine, et puis il y a eu un attroupement de gens. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Je voyais quelqu'un, ou je voyais une chose par terre. C'était un clochard. Personne ne faisait rien. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est moi qui ai dit, bon, écoutez, faut appeler la police. Et finalement, on a appelé la police. Mais peut-être parce que les gens étaient déjà sur place. Moi, je suis arrivé comme un intrus, quelqu'un qui finalement n'était pas impliqué directement dans la situation. Et à ce moment-là, j'avais peut-être un recul. Mais c'est parce que la plupart du temps, quand ça arrive face à face avec une chose qui nous surgit là, d'une façon spontanée et en plus horrible, ben là, les gens ont envie de rester là.
Pierre Faubert, psychologue, merci.
Ben, ça fait plaisir. Et puis, je suis très triste, très désolé pour ce qui est arrivé. Mais comme vous l'avez signalé, Bernard, le jeune homme et sa famille semblent très unis. Et puis, on a l'air d'avoir de l'allure. Et je pense qu'ils vont pouvoir faire quelque chose de bien avec ça.
Je suis bien d'accord avec toi. Merci beaucoup, Pierre. On va aller tout de suite à l'appel de Christiane. Bonjour, Christiane.
Bonjour.
Vous avez vécu quelque chose comme ça?
Moi, j'ai vécu quelque chose, oui, quand même. J'étais à mon appartement, j'avais un appartement au rez-de-chaussée, et très tôt le matin, j'entends des appels au secours. De la fenêtre de mon appartement, je vois dans l'entrée une femme nue qui hurle à l'aide, et avec un tel désespoir. Et comme elle était nue, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, elle peut pas rester comme ça. J'ai pris une robe de chambre supplémentaire, je suis sortie, je suis arrivée, et j'étais donc la première personne sur les lieux d'un crime, puisqu'elle venait de se faire violer. Alors, voilà, j'ai été la première, et ensuite, je suis rentrée, à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire, je suis rentrée à la maison, j'ai appelé le 911, je suis ressortie auprès d'elle, et je peux vous assurer, le 911 est venu rapidement, mais il n'y avait personne d'autre. Personne d'autre n'est venu.
Merci, Christiane. Bravo. Maureen qui nous appelle. Bonjour, Maureen.
Oui, bonjour. Écoutez, je vais être brève aussi. Moi, ce n'était pas une situation où il y avait un groupe. Alors, c'est différent. Mais je sortais d'un guichet automatique et j'ai vu un jeune homme bousculer une jeune fille assez sévèrement là, dans le mur, dans un mur de briques. C'était comme un petit centre d'achat. Et vraiment, instinctivement, ils étaient entrés dans le centre d'achat. J'ai suivi et j'ai simplement dit « Hey! » parce que les jeunes marchaient très, très rapidement devant moi. Je ne savais pas s'ils étaient anglophones ou francophones parce que je suis dans le West Island. Mm-hmm. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le bras de la jeune fille et je l'ai retournée vers moi. Elle me regardait. J'ai dit « Ne laisse personne te traiter de cette façon-là, tu m'entends? Ne laisse personne te traiter. » Et le garçon s'est mis de dos pour pas que je le voie. Et je n'avais pas de cellulaire sur moi, mais j'ai mis ma main dans ma poche et j'ai simplement dit, est-ce que tu veux que j'appelle la police? Et puis elle m'a fait non de la tête et elle est partie à courir avec le jeune garçon. Et il y avait des gens autour de moi qui regardaient la scène et ils me regardaient moi comme en voulant dire « c'est toi qui es ridicule », en voulant dire « tu ne te mêles pas de tes affaires ».
C'est ça, de quoi tu te mêles.
Ouais. Et là, moi, je les regardais comme en voulant dire « on va attendre qu'elle se fasse tapocher puis qu'elle se fasse… vous allez me dire j'ai des enfants, j'ai une fille moi-même ». Alors, ça a été instinctif, je ne me suis pas posé la question. C'est après que j'ai réfléchi, puis je me suis dit, si ce garçon-là avait été armé, peut-être que j'aurais pu me mettre en danger. Mais sur le moment, c'est pas à ça que j'ai pensé. J'ai vu la jeune fille se faire bousculer, là. On parle pas d'une petite tape sur l'épaule, là. On parle de se faire rentrer dans un mur de briques, là. Puis avec un langage tellement vulgaire, qui était, ça m'a pris au cœur. Alors, je pense que c'est, non, j'ai même pas compté jusqu'à deux. J'ai accouru. Mais j'ai vu qu'elle était prise comme dans un piège. Je peux pas l'expliquer. Elle s'est sauvée avec lui.
Merci, Maureen.
Alors, bonne émission.
Merci beaucoup pour l'appel. On s'en va rejoindre. François, bonjour, François.
Oui, bonjour, M. Drainville. Écoutez, moi, c'était juste pour illustrer le fait que les gens n'interviennent pas. Moi, il y a une quinzaine d'années environ, je me suis fait attaquer. J'étais à Paris et je me suis fait attaquer sur une place publique très, très violemment. Et on m'a... j'ai dû tourner pendant peut-être une demi-heure, le visage ensanglanté, à essayer de trouver quelqu'un pour juste appeler l'urgence et m'aider. Il n'y a personne qui m'aidait. Ça a été des bons Samaritains au bout d'une demi-heure qui m'ont reconduit à mon hôtel, tout simplement.
Et donc, les gens, quand ils vous voyaient, François, quand ils vous voyaient, ils s'éloignaient de vous, c'est ça?
Oui, ils s'éloignaient. Bon, j'avais le visage ensanglanté, commotion cérébrale, le nez cassé, des dents cassées. Même que quand je suis revenu à moi, parce que j'ai perdu connaissance, quand je suis revenu à moi, il y avait un restaurant en face. Je suis rentré pour aller chercher des napkins pour m'éponger le visage. Ouais. Et même ça, le propriétaire m'a mis dehors. Il m'a poussé dehors. Il a dit « Non, je veux pas de troubles, je veux pas de troubles. » Je pense que les gens ont peur d'avoir des troubles. Quand ils voient quelqu'un avec un visage ensanglanté, ils se disent « C'est un bum, on va se garder loin. » Et j'en ai une autre anecdote pour vous, M. Drainville. Il y a aussi une dizaine d'années, à Montréal, on était un petit groupe d'amis, on est parti de chez moi, puis on s'en allait prendre un verre quelque part, dans un bar sur Saint-Denis. Arrivé près du métro Laurier, il y avait un groupe de skinhead, il y a quelques années. Puis bon, j'étais avec des copains latinos, puis ils sont mis à nous courir après. Et il y a un ami qui s'est fait attraper par 5-6 skinhead là, au coin de Laurier, pas Laurier, un petit peu plus bas, bref, près du métro Laurier, sur Saint-Denis. C'était un vendredi soir, il y avait plein de monde, c'était l'été, il faisait beau, ça marchait. Ils étaient 4-5 là, pendant 5 minutes à lui donner des coups de pied et des coups de poing par terre. Les gens contournaient. Sans dire un mot, sans intervenir, ça contournait simplement la bagarre.
Vous avez fait quoi? Vous avez appelé la police?
Oui, moi, je me suis retrouvé dans un restaurant pas loin en face. Le propriétaire voulait pas me laisser rentrer, mais finalement, il a barré la porte. On a appelé la police. Mm. La police, ça lui a pris 20 minutes à venir.
François, je dois vous laisser là-dessus.
Oui, c'est bon.
Merci pour les deux anecdotes que vous nous avez racontées.
Merci. Au revoir.
Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. À méditer, comme dirait l'autre. Dans un instant, l'incident sur l'autoroute Bonaventure ce matin, ça aussi, c'est à méditer. Revenez-nous.